Merci Thomas, merci à l'Observatoire pour l'accueil du Conseil national du SIDA. Et je vous prie par ailleurs et par avance plutôt de m'excuser de pouvoir rester à la journée qui est effectivement très intéressante. Mais nous sommes dans le bouclage d'un avis et d'un rapport sur la pénalisation de la transmission du VIH et de l'exposition simple au risque de transmission du VIH, qui doit être bouclé ce soir, cette nuit. Donc voilà, je devrais hélas partir vers midi, mais je serai à votre entière disposition pour des questions et pour un échange sur cette question des autotests, qui sera sans doute le cœur de la présentation, mais qui ne sera pas peut-être le seul élément évoqué, puisque la réflexion du Conseil national du SIDA s'est inscrite plus largement dans une réflexion sur l'évolution de l'offre et des stratégies de dépistage que le Conseil participe, à laquelle le Conseil participe, notamment depuis un avis de 2006 qu'il a rendu. Alors, rapidement aussi, un mot sur le Conseil national du SIDA, qui est une instance française publique. C'est une instance composée de 24 membres. Le président est nommé par décret du président de la République et les membres sont nommés sur proposition du Premier ministre ou d'un certain nombre d'instances publiques. Il y a aussi des représentants des associations de lutte contre le VIH-SIDA. Le Conseil national du SIDA a 25 ans. Et il vit là ses derniers jours, avant de renaître dans quelques semaines avec une nouvelle appellation, Conseil national du SIDA et des hépatites virales chroniques, donc un élargissement de ses missions aux hépatites virales chroniques et à l'ensemble des infections sexuellement transmissibles, dès lors qu'elles touchent les populations concernées par le VIH-SIDA et les hépatites. Alors, passer cette présentation très rapidement. Cette invitation m'a été faite, vous l'avez dit, parce que le CNS a rendu, à la suite de la demande de notre ministre de la Santé et des Affaires Sociales, un avis et un rapport sur les autotests d'infection par le VIH. Donc, pour rendre ce rapport, nous avons mis en place une commission et nous avons procédé à un certain nombre d'auditions. Nous avons travaillé notamment en lien très étroit avec l'Institut de veille sanitaire français et l'INSERM, qui est l'Institut de recherche qui concerne notamment les questions d'épidémiologie. Et nous avons aussi auditionné un certain nombre d'acteurs de la lutte contre le VIH-SIDA pour réfléchir à ces enjeux d'acceptabilité, comme ça a été dit, par ailleurs de la question de la performance, donc a été au centre des discussions, et notamment à partir de de l'évaluation américaine faite par la FDA, à la suite donc d'une étude clinique en trois phases extrêmement importante et qui a conduit à l'avis favorable de la FDA. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que nous avons travaillé en 2012. Alors, je précise que dès lors que le Conseil national du SIDA a rendu son avis, nous travaillons à présent sur d'autres avis, donc notre expertise sur cette question n'est pas nécessairement à jour, même si à titre personnel. Alors voilà, là on a une première difficulté, mais c'est pas grave, parce que c'est après tout le plan, donc on va le retrouver. Si ça se présente sur les autres diapositives, là je m'inquiéterai, mais j'ai une version, PDF. Alors pourquoi et en quoi faut-il diversifier le recours au dépistage? Ça a été le commencement de la question du Conseil. Avec la question du dépistage précoce, ça a été largement dit ce matin, dans l'intérêt thérapeutique du patient, l'initiation la plus précoce possible du traitement est recommandée. Alors là, ce sont les recommandations du groupe d'experts 2013 relatif à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, qui est réalisé tous les deux ans ou tous les trois ans, et qui est actualisé, qui est réalisé sous l'égide du Conseil national du SIDA et de l'Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites. Donc, or, seulement 30% des personnes sont diagnostiquées à un stade précoce. Voilà, cela a été un peu dit, et cela apparaît sur notamment ce schéma, ce graphique pardon, de l'INVS, avec un enjeu de dépistage précoce, parce que l'épidémie reste active effectivement en France. Il a été fait référence à l'épidémie cachée. Alors bon, nous préférons parler de, pas mentionner nécessairement ce terme, simplement dire que 30 000 personnes ne savent pas infectées par le VIH, donc 20% de la population infectée. À l'origine, alors de 70% des transmissions, il y a effectivement une échelle, enfin, en tout cas plusieurs chiffres qui peuvent être invoqués, mais celui-ci nous semble juste. Et l'importance du dépistage comme outil de prévention à part entière, et avec le rôle stratégique de la mise en œuvre d'autres outils de prévention, le préalable nécessaire au TASP et potentiellement au PrEP, et le Conseil national du SIDA a rendu également relativement récemment un avis favorable pour l'usage des PrEP. Alors là, c'est une version assez qui date de 2012 de la cascade française et de l'importance de cette épidémie. L'activité de dépistage ne progresse pas de façon significative. Ça, c'est ce qu'on peut noter au regard des données de surveillance épidémiologique, avec une stabilité sur les 5 dernières années et un niveau néanmoins très important pour la France, 5 millions de dépistages en. Avec le nombre de nouveaux diagnostics, 6100 en 2011, et le retard au diagnostic. Sur les données actualisées pour 2013, 5,2 millions de sérologies. Là, vous voyez effectivement à la fois le plateau entre 2006 et 2011, et puis la légère augmentation du nombre de dépistages qui sont réalisés pour une très grande part dans les laboratoires. Dans les laboratoires et pour la majorité après une prescription médicale, avec un nombre relativement faible de dépistages, qui 8% qui sont réalisés dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, qui constituent le socle du dépistage traditionnel ou conventionnel, je ne sais plus l'expression qui était retenue, de la stratégie en tous les cas classique, traditionnelle. Donc c'est un chiffre qui est relativement faible et qui interroge d'ailleurs, car les moyens consentis, notamment financièrement, sont importants. Voilà pour les stratégies, pour les sérologies positives en 2013, 11 300. Avec, vous voyez, cette légère augmentation pour 2013. Alors, la réflexion a été d'investiguer sur la littérature relative au dépistage et aux freins relatifs au dépistage, qui est une réflexion très ancienne. La question des facteurs liés aux individus limitant la capacité ou la motivation à s'engager dans une démarche de dépistage, avec des situations de forte précarité sociale et économique, une estimation biaisée du risque personnel d'avoir été contaminé et de l'intérêt de recourir au dépistage, la question des faibles croyances, des fausses croyances demeure, le déni du risque, les craintes de conséquences, peur de la maladie, de la stigmatisation qui demeure extrêmement forte et de l'exclusion sociale. Et puis il y a les dispositifs qui peuvent apparaître parfois inadaptés. Et là, on est très attentif aux modalités d'organisation, les horaires d'ouverture des centres de dépistage, les délais rendus de résultats, les localisations hospitalières, la qualité de l'accueil, du counseling, les conditions de confidentialité qui sont garanties. Les dispositifs, alors ce serait un peu long de rentrer dans le détail, mais ne sont pas toujours adaptés, toujours suffisamment pensés. Et puis, par ailleurs, on a noté dans un autre avis du CNS concernant la mise en œuvre de notre plan national. Donc, nous avons un plan national, je dirais un mot, nous avons eu un plan national 2010-2014, mais qui se prolonge en 2015, qui couvre aussi la période 2015, où on a noté une faiblesse notable du pilotage par les ARS, les agences régionales de santé, de l'offre de dépistage par rapport aux besoins des populations et par rapport aux spécificités sociales que j'ai indiquées. Donc on a noté dans différents rapports ces freins au dépistage qui peuvent être imputés très clairement au dispositif. L'enjeu donc consiste à lever ces freins en ajustant l'offre au plus près des besoins, avec le développement des formes innovantes de dépistage en direction des personnes que l'offre existante ne permet pas d'atteindre, en allant au-devant des publics, et je crois que cette exigence-là est bien entendue et bien comprise aujourd'hui. Elle n'est peut-être pas toujours soutenue financièrement de façon optimale, mais c'est un autre sujet, mais on va en parler. Et en tenant compte de la diversité, de la spécificité des besoins ou attentes des différents publics, avec les enjeux qui demeurent demande de discrétion et de confidentialité, proximité culturelle, communautaire, conditions pratiques adaptées. Voilà, la question du dépistage anonyme et gratuit demeure complètement d'actualité. Il y a toujours un besoin d'anonymat, une demande d'anonymat qui est présentée. Et donc, il s'agit simplement de la prendre en compte dans cette nouvelle forme de dépistage. Et on dira un mot sur les trolls. Alors, diversifier l'offre pour que dépister devienne un geste simple. Alors, je voulais simplement préciser quelques-uns des cadres français. Alors, pardon, parce que c'est effectivement très spécifique à la France. Néanmoins, je crois qu'on a des stratégies effectivement très proches, même si les temporalités sont pas toujours les mêmes. Notre plan national 2010-2014 a promu trois axes d'intervention pour promouvoir ces nouveaux outils et ces nouvelles stratégies. Renforcer le dépistage dans le système de soins à l'initiative des soignants, notamment en direction de la population générale. Là, c'est une décision qui a été prise, notamment après un avis du Conseil national du SIDA et des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour promouvoir le dépistage en population générale. Reste que la littérature existante et par ailleurs le manque de soutien d'un certain nombre d'acteurs de la santé et notamment de la médecine, nous permettent de douter de la mise en œuvre la plus optimale de cette stratégie-là. On pourra y revenir éventuellement parce que c'est un élément qui peut être véritablement interrogé pour penser le dépistage. Ensuite, élargir l'offre de dépistage en direction des populations à forte incidence. C'est depuis le troisième plan de lutte contre le sida. Alors ça remonte un petit peu, mais c'est l'année 2000. La France a officiellement consacré les populations cibles, cette notion de population cible prioritaire en matière de dépistage. C'est pas pour autant que le mot communautaire en France ait pu être totalement utilisé, mais en même temps on a admis cette notion de population cible et ce cinquième plan s'inscrit véritablement dans la continuité. Alors il y a une différence, c'est l'outil. Il y a une évolution des outils. Donc notre haute autorité de santé a rendu deux avis favorables en 2008 et 2009 sur ces tests rapides, deux arrêtés, donc deux textes réglementaires encadrent leur usage, notamment pour s'agissant des trods en direction des populations ciblées réalisées par des associations. Et je dirais un mot de l'évolution de ce cadre, parce qu'on est dans un dispositif expérimental pour l'instant, mais qui sera et qui est conduit à être pérennisé. Rénover le dispositif dédié de dépistage anonyme et gratuit avec la réorganisation de notre réseau. Nous avons traditionnellement les centres antivénériens qui sont devenus les CIDIST en charge des IST et les CDAG. Donc il y en a à peu près 370 sur le territoire qui parfois sont distincts, parfois constituent un même centre. Mais toujours est-il, c'est que même s'ils constituent un même centre, ils ont deux comptabilités différentes avec deux niveaux de compétences aussi différentes dans certains cas, les collectivités territoriales jouent un rôle important pour certaines, du moins quand c'est le cas pour les sidistes. Donc on avait un dispositif très peu lisible et il y a cette recommandation de constituer de nouveaux centres, de fusionner les CDAG et les sidistes et le développement de centres de santé sexuelle. Alors c'est le terme de centre est inscrit dans le plan, même si les acteurs de la lutte contre le sida évoquent beaucoup plus volontiers une offre de santé sexuelle aujourd'hui, notamment avec cet enjeu de proximité et d'aller vers les populations. Alors, pour être complet sur notre contexte institutionnel, avant de parler des autotests, hein, que je n'oublie pas, au titre des nouveaux outils, de nouvelles stratégies, on a à la fois notre loi de financement de la sécurité sociale qui a consacré la fusion de ces centres de dépistage des IST et du VIH, avec donc, vous voyez, la création de centres gratuits d'information de dépistage et de diagnostic, les CEGID, qui assurent, ça c'est le terme de la loi, dans ces locaux ou hors les murs, des missions de prévention, dépistage, diagnostic, de VIH, hépatite et IST. Et c'est une novation, donc on est là dans le cadre d'un élargissement des missions, et bien des missions de prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception. C'est la première fois que dans un texte législatif de ce niveau-là, nous avons une référence à la santé sexuelle. Alors, pour l'instant, nous sommes dans une phase de mise en œuvre de ce dispositif, donc nous ne pouvons pas porter d'analyse. Néanmoins, nous serons très attentifs à cette mise en œuvre. Deuxième élément, c'est le projet de loi relatif à la santé. Alors, celui-ci est actuellement en discussion dans notre Parlement, et il y a dans ce projet de loi un article 7 qui nous intéresse ici plus particulièrement, car il a cet objectif de conforter la pratique des TROD et d'offrir un cadre à la mise à disposition des autotests pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles. Notez qu'il y a là la possibilité d'offrir un cadre juridique à des tests qui ne seraient pas nécessairement des tests uniquement VIH. On pense à tous les autres tests, que ce soit des tests qui sont en auto-prélèvement, auto-analyse ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc on a cet article qui pose des difficultés, qui pose question. Nous avons été auditionnés pour donner notre sentiment, et on va y venir, mais il y a, si vous voulez, des études d'impact dans les projets de loi, et donc on verra que les autotests seront à la fois disponibles en pharmacie à la vente et mis à disposition d'un certain nombre d'acteurs. Et donc il y a, si vous voulez, dans les études d'impact, parce que cela nécessite un financement, donc il y a un nombre d'autotests qui est estimé comme devant être mis à disposition à la fois par les centres de dépistage et puis par des acteurs, par différents acteurs. On y reviendra. Et le nombre est très faible, hein, on est sur 10 000. Donc l'impact en santé publique sera d'autant plus limité. On va y venir, parce que c'est vraiment un enjeu majeur de cette mise à disposition des autotests. Voilà. Alors, contexte opérationnel, déploiement des TROD depuis 2010 et perspective d'une offre d'autotests. Alors, simplement, je vais être très bref sur les TROD parce que je sais que dans les participants, il y a de très bons intervenants cet après-midi sur le sujet. Mais simplement pour resituer un petit peu l'offre TROD du point de vue des découvertes, des résultats positifs qui sont indiqués par les tests. Nous avons donc dans le graphique de gauche le nombre de tests positifs et nous avons donc ici tout en bas les TROD parce que leur nombre est très limité par rapport aux 5,2 millions en 2013 de tests classiques. Nous avons alors 56 000 TROD communautaires et à peu près autant de TROD réalisés dans le cadre des centres de dépistage. Alors, j'ai pas le chiffre précis parce qu'on a très peu de données. Autant on a des données sur les TROD communautaires qui sont réalisés par les acteurs associatifs, autant nous avons peu d'informations sur les TROD qui sont réalisés dans les centres de dépistage, parce qu'il y a aussi dans les centres de dépistage une offre combinée en direction des publics. Vous voyez que les TROD, alors ça représente à peu près 4% des sérologies positives, mais néanmoins, là, on voit bien l'efficacité des TROD lorsque l'on regarde le graphique de droite avec les tests positifs pour 1000 tests réalisés. Alors, on a une légère, on est sur 10 pour 1000 lors de la mise en place. Après, on a une légère baisse, mais qui est absolument logique, dans la mesure où la première année, on peut considérer qu'il y ait eu un effet particulièrement bénéfique, étant donné la nouveauté du dispositif. Alors, par population cible, donc on a effectivement pas du tout on a les TROD qui ne sont pas réalisés dans les mêmes proportions pour l'ensemble de ces populations, bien évidemment, mais on note que ce n'est pas complètement une surprise pour les acteurs, notamment de terrain, qui travaillent auprès de ces populations, que les TROD réalisés auprès des alors TSP, c'est l'appellation française officielle pour les personnes prostituées, personnes se prostituant. 24,9. Oui, je dis cela parce qu'on ne parle pas en France du point de vue institutionnel, hein, du moins de travailleurs du sexe, contrairement à l'appellation anglo-saxonne, etc. HSH, donc 17,9, migrants 7,1, UD 2,4. La perspective d'une mise à disposition des autotests à présent, le point de vue du CNS. Donc, il était important de procéder quand même à cette évaluation de l'existant, parce que vous allez le comprendre par rapport à nos recommandations. Il est absolument impossible de considérer l'autotest indépendamment des autres offres de dépistage. Ne serait-ce que parce que l'autotest, on le verra, ne présente pas les mêmes garanties que des tests classiques, et donc ils doivent être, lorsqu'ils sont positifs, on l'a dit de façon extrêmement forte, et ce sera inscrit sur les notices, et ils doivent nécessiter un test de confirmation. Mais là, ce sera sans doute l'une des difficultés, on va y revenir. Alors, l'avis du CNS et l'avis du CCNE, j'ai oublié de le mentionner en introduction, mais nous avons été saisis conjointement avec une autre instance, qui est le comité d'éthique français, le comité consultatif national d'éthique, les termes de la saisie, hein, sur les problèmes posés par la commercialisation d'autotests du dépistage de l'infection à VIH, donc double saisine par la ministre. Alors, depuis le départ, je parle de mise à disposition, hein, pas de commercialisation. Alors, dans la mise à disposition... Nous entendons à la fois la mise à disposition à titre gratuit par un certain nombre d'acteurs, telle qu'elle est prévue par l'article 7 de la loi que j'ai évoqué, enfin, du projet de loi, et la mise à disposition par la vente dans des officines et sur le site internet de ces officines. Dans le sens où il y a un monopole de la vente des dispositifs médicaux par les pharmacies. Donc, il y a je vais y revenir, hein, mais on a été saisi sur la question de la commercialisation, mais nous, l'enjeu dépasse la commercialisation, et voilà pourquoi je parle de mise à disposition en entendant ce double circuit lorsque je l'évoque. Recommandations du groupe d'experts qui ont été prises en compte, disponibilité des autotests VIH, donc nous avons constaté que les tests rapides non autorisés en France sont accessibles à la vente libre sur Internet, avec des qualités et des performances inconnues. Alors, sur ce point, il y a à peu près une centaine d'autotests qui sont accessibles à la vente sur Internet, et la plupart sont des autotests contrefaits. Et donc, on sait par ailleurs qu'il est véritablement avéré que leur performance dans beaucoup de ces autotests n'est pas satisfaisante. Il n'y a pas d'étude qui a été faite, mais il y a un certain nombre d'acteurs associatifs qui sont procurés les tests et qui les ont testés. L'autorisation d'un autotest salivaire, donc ça c'est ce qui a motivé la saisine de la ministre, donc c'est l'autotest qui a été cité ce matin, qui est donc on est dans le contexte américain. Alors, il est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'offre de dépistage n'est pas aussi adaptée, variée, que l'offre de dépistage française. Hein, c'est un élément que nous avons pris en compte, et le dépistage gratuit est assez relativement récent aux États-Unis. Donc, on est dans un contexte différent, et puis par ailleurs, il existait un certain nombre d'autotests mettaient en jeu non pas une auto-analyse, mais simplement une auto-analyse du résultat, mais simplement un auto-prélèvement avec envoi ensuite du prélèvement à un laboratoire. Donc c'est un contexte un petit peu différent. Il y a véritablement une culture de l'autotest aux États-Unis, avec une offre de dépistage qui n'est pas aussi adaptée et riche qu'en France. Donc c'est vraiment des éléments auxquels que nous avons souhaité prendre en compte. Nous avons défini les autotests délivrés sans prescription médicale, avec deux étapes, comme je vous le disais, l'auto-prélèvement et l'auto-analyse, réalisables sur sang total ou sur salive, sur sang total par prélèvement capillaire, d'une quantité de sang inférieure à celle qui est prélevée lors des trodes traditionnelles qui sont mis en place en France, et avec un résultat en moins de 30 minutes. Alors là, ça dépend des fabricants, hein. Il y a des résultats qui sont parfois présentés plus rapidement que 30 minutes, bien plus rapidement. Pardon, c'est important. Sur la colonne de droite, c'est notre réflexion, c'est le cadre de notre réflexion. Nous avons considéré les enjeux éthiques en termes de performance, d'accompagnement, d'usage détourné potentiel, les enjeux stratégiques du point de vue du rapport bénéfice-risque, la place dans le dispositif de dépistage et les enjeux organisationnels en termes d'accompagnement, de distribution, d'acteurs qui pourraient être intéressés, concernés par la mise à disposition des autotests. Alors, la question de la performance qui est centrale, et bien évidemment, pour détecter le VIH, un usage satisfaisant de l'autotest sans intervention extérieure. C'est la conclusion que nous avons retenue en regard notamment de la littérature existante et de cette évaluation de la FDA, qui est une évaluation des autotests, du point de vue de l'acceptabilité, de la faisabilité, de la performance, et qui s'est déroulée en trois phases, tel un essai clinique. Nous avons noté une spécificité élevée. Alors, la spécificité, c'est la capacité que le test aura à donner un résultat négatif. Donc, dans ce sens-là, les résultats sont extrêmement satisfaisants. La question de la sensibilité, la capacité du test à donner un résultat positif, là, les résultats sont évidemment, mais en tous les cas, on a constaté qu'ils étaient moins bons à celle des tests conventionnels. Alors, nous citons là deux chiffres, 92,9, 86,5. Le premier chiffre est le chiffre qui a été donné par la FDA, et le second provient d'une étude qui a été menée à l'hôpital Saint-Louis. Je crois que sur ces résultats, il faut les prendre avec prudence. Le deuxième résultat a été réalisé auprès de personnes traitées. Et le premier résultat, qui est le résultat de la FDA, nécessite d'être précisé. La plupart des cas qui n'ont pas été correctement diagnostiqués proviennent d'un défaut d'utilisation du test. La majorité des cas. Il y a une minorité de cas qu'on peut référer aux enjeux de séroconversion. Donc des tests qui ont été réalisés trop rapidement après l'exposition au risque et la transmission. Alors, c'est vrai que l'autotest, on pourrait y revenir, je ne suis pas médecin, hein, mais je vais simplement présenter la position du CNS. L'autotest ne présente pas les mêmes garanties, évidemment, sur cette sensibilité. Et par ailleurs, contrairement à un test classique, il nécessite d'être réalisé trois mois après l'exposition potentielle au risque pour donner un résultat. Je dis trois mois parce que lorsque l'on interroge des virologues, certains diront de 3 à 6 mois. C'est un point d'attention effectivement majeur et nous l'avons mentionné dans notre avis. La question de l'augmentation des dépistages et de sa précocité, qui était une des questions qui nous intéressait préférentiellement, nous avons noté une acceptabilité potentiellement élevée du dispositif dans certains types de populations, principalement pour des raisons de commodité, de rapidité et de confidentialité, parce que ces autotests répondent à une demande d'accès intime à un test de dépistage, et enfin parce qu'il y a un intérêt marqué chez des HSH vivant une sexualité secrète, éloignée des grandes villes et en forte recherche d'anonymat. Sur ces différents items, nous nous sommes appuyés à la fois sur les données de la FDA et sur plusieurs études qui ont été menées, y compris en France, notamment l'étude WebTest, auprès d'utilisateurs d'autotests qui ne se procuraient pas des autotests homologués, mais qui néanmoins achetaient un certain nombre de tests et qui recouraient à cet outil de diagnostic. le coût pourrait constituer un obstacle. Alors, effectivement, le coût, on a peu d'indications pour le futur coût des autotests en France. On parle d'une vingtaine d'euros. Aux États-Unis, c'est 35 dollars. Donc, on a un coût qui reste assez important. Le coût des 35 dollars inclut notamment la question de l'accompagnement à distance, par une plateforme à distance. Il se pourrait qu'en France, ce coût soit pris en charge par les pouvoirs publics, ce qui explique que le coût au final de l'autotest en France pourrait être inférieur. Après, il y a aussi les enjeux de marché et on sait que le fabricant proposera un coût qui sera adapté à l'offre potentielle de ce type d'outil. Néanmoins, la question du coût doit être posée. Alors, la question de la régression de l'épidémie de l'infection au VIH, là, je crois qu'il faut être prudent et je crois que j'ai suffisamment mentionné jusqu'à présent, mais je peux évidemment le préciser. Un rapport bénéfice-risque favorable malgré les risques liés au faux négatif, car les risques ne l'emporteraient pas sur les bénéfices, quelles que soient les hypothèses plausibles retenues. Cela veut dire que nous avons testé avec l'Institut de veille sanitaire et avec l'INSERM, nous avons testé différents types de scénarios et nous avons estimé que si nous retenions que des hypothèses plausibles, il y aurait un bénéfice. Effectivement, on a des hypothèses, on pourrait dire catastrophistes, où on verrait la population que l'on cherche à atteindre qui n'aurait pas recours à ce type d'outil, et la population qui réalise un test de dépistage traditionnel, qui est habituée au test conventionnel, eh bien, si cette population-là substitue ces tests performants par des tests moins performants, si par ailleurs la sensibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un enjeu, n'est pas optimale, là, on est dans un cas de figure un peu moins favorable. Mais on a estimé, effectivement, que ces hypothèses, très précisément les hypothèses les plus catastrophistes, n'étaient pas plausibles. Voilà pourquoi nous disons que l'impact peut être positif, mais son impact attendu doit être limité. Alors, je vais rapidement, mais nous avons donné un chiffre. Alors, il a été repris par les médias, mais hélas, nous le donnions avec une extrême prudence, avec beaucoup de prévention, c'est-à-dire que la mise à disposition des autotests pourrait permettre de diagnostiquer 4000 cas et d'éviter 400 transmissions secondaires. Mais là, ce chiffre que nous avions donné, nous avions précisé que nous suivions les hypothèses posées par la FDA et nous avions par ailleurs dit que ces hypothèses étaient pas forcément les hypothèses les plus plausibles. Donc l'impact sera sans doute plus limité que celui-ci. Et en tous les cas, il ne faut pas attendre un impact massif, aussi pour les raisons que j'ai indiqué, c'est-à-dire que la mise à disposition d'autotests à titre gratuit serait très limitée et on sait que le coût va constituer un frein aux autotests. Donc voilà pourquoi les autotests doivent constituer, et là je conclurai par ces recommandations du CNS, doivent constituer un dispositif additionnel et complémentaire à l'offre existante et on doit considérer des modes d'accès diversifiés, adaptés aux besoins des personnes, avec ce double circuit, vente libre et mise à disposition, c'est ce double circuit qui a été retenu par les pouvoir public, avec par ailleurs une mise à disposition dans le cadre de cette mise à disposition des conditions d'usage garantissant un accompagnement performant des usagers des autotests avec documents fournis, services d'assistance à distance, mobilisation large y compris au-delà des acteurs traditionnels pour encadrer, c'est le terme utilisé, même si les autotests constituent un dispositif qui doit donner de l'autonomie aux personnes, il y a un encadrement à apporter, c'est une question qui peut être discutée. Et enfin, promotion plus générale du dépistage, de ces enjeux, et une évaluation pour suivre l'introduction des autotests. Voilà, je vous remercie.